À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Vous êtes sur Fréquence Mistral, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce magazine en compagnie de Elsa Huet-Allègre, responsable territoriale des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Bonjour Elsa Huet-Allègre, bienvenue dans le studio de Fréquence Mistral Digne.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors, on va parler de tourisme durable aujourd'hui. On va revenir sur une plateforme, sur une campagne. Mais tout d'abord, pour un peu de mise en contexte, est-ce que vous voulez bien nous rappeler pour les auditeurs et auditrices pour qui ce ne serait pas forcément clair, quelles sont les missions de la Ligue pour la protection des oiseaux ?
Alors, notre association, la LPO PACA, est une association en fait qui agit pour la biodiversité de façon générale, que ce soit par des actions de conservation de la nature, sur des programmes sur des espèces particulières, les vautours, les chouettes ou les vipères, ou que ce soit au travers de l'éducation, la sensibilisation et la formation pour tous les publics, du scolaire, du grand public, des visiteurs, etc. Voilà, donc, et comme son nom l'indique pas, la LPO donc, ne s'occupe pas que des oiseaux, on s'occupe vraiment de la faune sauvage de façon générale, à la fois sur les castors, les loutres, les papillons et bien sûr les oiseaux. Voilà, donc on a un champ d'action qui est assez vaste et on s'occupe de toute la région PACA.
Et vous êtes, vous, responsable territorial donc du 04 et du 05. Ça consiste en quoi exactement, responsable territorial ?
Alors moi, je m'occupe de gérer tous les programmes qui sont sur les deux départements et aussi les actions des bénévoles, parce qu'on a la chance d'avoir un grand réseau de bénévoles qui font des conférences, des sorties, etc. Donc voilà, donc je m'occupe de coordonner toutes les actions à la fois bénévoles et à la fois salariés. On a aussi une réserve naturelle près de Briançon, une réserve naturelle régionale. Donc on s'occupe aussi de la gestion de cette réserve. Et aussi, je travaille beaucoup sur le programme Vautour, le programme de réintroduction des vautours dans le Verdon, où j'aide mes collègues sur les aspects plus communication, sensibilisation et lien avec les partenaires. Voilà, donc c'est assez vaste.
Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse parler de la conciliation entre les sports, ou en tout cas les activités de pleine nature, et la biodiversité, puisque donc 3 Français sur 4 pratiquent des sports ou des loisirs nature. Ça représente près de 35 millions de personnes, et ces activités se multiplient. Alors, c'est vrai qu'il y a la randonnée pédestre, le vélo, le VTT, le ski alpin, qui sont les sports de plage également, qui figurent parmi les activités les plus populaires. Mais voilà, ça implique des sites naturels de plus en plus fréquentés et une pression accrue sur la biodiversité, voire un dérangement de la faune sauvage. Est-ce que vous voulez nous parler de cette évolution et quels sont exactement les dérangements que peuvent causer ces activités ?
Alors c'est vrai qu'on a vu une explosion de la fréquentation des milieux naturels, que ce soit les plages, les falaises, les montagnes, surtout après la crise Covid, qui a vraiment engendré vraiment une fréquentation exponentielle du fait qu'en fait les gens ont découvert qu'autour de chez eux c'était très sympa. Et donc c'est super de se dire que les gens vont dans la nature. Au contraire, c'est bien, on sait que la nature apporte des bienfaits à la santé. Donc voilà, le problème c'est que parfois les gens n'ont pas forcément les codes pour se comporter de façon, on va dire, discrète et se fondre dans la nature. Donc c'est vrai que voilà, l'objectif c'est vraiment que les gens fréquentent les milieux naturels, mais aient les comportements adaptés. Alors les dérangements, ça peut être par exemple des fois des chiens qui divaguent, donc qui peuvent vraiment déranger la petite faune qui niche au sol, voilà les oiseaux. On se rend pas compte, mais autour de nous, il y a beaucoup d'oiseaux, notamment qui nichent dans les buissons, etc. Et quand on a un chien qui se balade en liberté, en fait, ça peut vraiment impacter fortement la nidification. Ça peut être aussi tout ce qui est, bien sûr, les bruits type enceinte musicale, etc., le piétinement aussi. Voilà, donc c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir vraiment des zones un petit peu de quiétude à la fois où il y aura moins de dérangements et que les gens prennent l'habitude de se balader dans la nature de façon, on va dire, en pleine conscience du milieu dans lequel ils sont.
Est-ce qu'il y a des périodes sensibles en particulier ?
Alors, ça va être très variable, mais bien sûr, la période du printemps est la période la plus sensible. Alors, chez nous, ça va dépendre de où est-ce qu'on se trouve, si on est en montagne ou si on est plutôt dans le sud du département et de la région. Mais on va dire qu'à partir du mois de mars, c'est là vraiment où tous les oiseaux commencent à nicher. Donc là, ils sont vraiment très discrets et très sensibles au dérangement. Et ça va s'étaler jusque, on va dire, juillet, août. Voilà, donc c'est vraiment les périodes qui sont les plus sensibles pour la faune. Et après, on va avoir le dérangement en période hivernale. Donc ça va être plutôt dans les zones montagneuses, lorsqu'il y a de la neige, en fait, ou des espèces type le tétralyre, qui est un oiseau qui passe l'hiver sur un igloo qui construit, est très très sensible au dérangement, puisque si on passe une fois à proximité de son igloo et que ça le dérange, en fait, il va perdre beaucoup d'énergie. Et potentiellement, au bout de 3 ou 4 dérangements, il peut perdre toute son énergie et ne pas passer l'hiver. Donc c'est vrai que en milieu de montagne et quand tu es dans les conditions neigeuses, ça peut être très problématique s'il y a du dérangement fréquent sur des zones où les oiseaux sont en période vraiment de pause, on va dire. Voilà.
Alors qu'est-ce que la LPO propose pour pallier à ces types de dérangements ? Peut-être déjà de la sensibilisation, de l'information à ce sujet, puisque j'imagine qu'on peut aussi ne pas savoir en fait les conséquences de tous ces actes.
Et alors exactement, c'est vrai que chacun n'est pas forcément conscient du dérangement qu'on peut apporter et du nombre qu'on peut être aussi, parce que des fois on a l'impression qu'on est seul, mais on n'est pas les seuls dans la nature. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme qui s'appelle Biodisport, où en fait l'objectif c'est justement d'apporter de l'information directement aux pratiquants. Parce que c'est assez compliqué quand on va aller sur dans un espace naturel, d'aller sur le site du département, puis sur le site du parc naturel où est-ce qu'on est, pour savoir où est-ce qu'on peut aller, ce qu'on peut pas aller. Donc là, l'objectif, c'était vraiment que les naturalistes et les gestionnaires d'espaces naturels rentrent eux-mêmes les zones de sensibilité et que ça diffuse vers les plateformes que les sportifs utilisent. Voilà, donc pour qu'ils aient vraiment l'information directement, sans avoir à aller chercher sur tous les sites internet, les offices du tourisme, etc. Donc voilà, donc cette plateforme a été créée il y a quelques années maintenant. Et en fait, donc on a des plateformes partenaires, type Come2Camp, Visiorando, Wimper, Iphigénie, etc. Donc, où quand on consulte une randonnée, par exemple, on va avoir un message qui s'affiche en disant « Attention, vous êtes dans une zone sensible pour le tétralyre, merci de rester sur les chemins, etc. » Voilà, avec des consignes claires associées aussi, qui permettent aux pratiquants voilà, de réaliser sa randonnée, sa voie d'escalade sans déranger.
C'est un dispositif participatif qui est né à la base en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016. Quelle est l'échelle à laquelle le dispositif sur lequel il se concentre ? Est-ce que c'est uniquement régional ? Est-ce que ça s'est développé dans d'autres régions que dans le sud ?
Alors en effet, à la base, c'est un dispositif qui a été créé par la LPO Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vrai qu'elle a été créée vraiment pour des zones de montagne. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment des zones de quiétude, de sensibilité, plutôt pour des espèces de montagne. Et ça a été en fait repris par la LPO France. Donc à ce jour, elle se développe sur le territoire français et notamment toute la partie atlantique. Et notamment par rapport au front de mer où on peut avoir des espèces type petits gravelots, enfin voilà, des petits oiseaux qui nichent dans les dunes et où on veut aussi faire passer le message de respecter les barrières quand il y en a, de pas déranger ces espèces-là. Donc au début, c'était vraiment un dispositif vraiment local et en fait, il se développe de façon régionale.
Il s'agit d'un temps de concertation entre différents partenaires, puis de cartographier les données qui ont été recueillies et ensuite donc de les diffuser, si j'ai bien compris. Quand on parle de concertation, quel type de partenaires peuvent être impliqués par exemple ?
Alors je vais vous prendre l'exemple du parc du Verdon sur lequel on a développé Biodisport depuis pas mal d'années. Alors là, la thématique dans le Verdon, c'est vraiment l'escalade et l'interface avec les vautours, aigles royaux, etc. dans les falaises type Grand Canyon, etc. Donc là, en fait, on a travaillé avec le parc naturel régional du Verdon, qui est vraiment, on va dire, l'instance qui réalise la concertation. Et en fait, donc nous, naturalistes, la LPO plus d'autres associations, comme le GPFSA, qui est une association aussi de protection de la faune sauvage et notamment des grands rapaces, en gros mis à disposition de la donnée, ce qui est aussi un grand changement chez nous, parce que généralement, on n'aime pas trop diffuser les aires d'aigles royaux, les aires de vautours, parce qu'on a peur du dérangement. Mais là, on s'est dit, en fait, quand il y a des lieux de pratique, il faut donner l'information aux pratiquants, parce qu'on peut pas leur dire « bon, mais vous avez dérangé », si en amont, en fait, on n'avait pas donné l'information. Donc du coup, en fait, on a créé des instances de concertation. C'était des réunions, en gros, organisées par le Parc du Verdon, entre nous, associations de protection de la nature, et les sportifs, c'était les clubs d'escalade, les fédérations, l'escalade et la FFCAM. Donc c'est des moments où on a pu discuter, en leur présentant les zones, et eux, en ayant leur retour, en disant « oui, mais là, on n'y va jamais, là, on aimerait, en effet, plus développer un site école sur cette zone-là, etc. » Donc c'est des moments, en fait, où c'est intéressant de discuter avec eux, puisqu'en fait, si on met de la formation à disposition et que personne ne la consulte, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc la concertation s'est passée de cette manière-là, et une fois qu'on était OK sur les zones, les périmètres, les sites concernés, on a diffusé l'information sur Biodisport, puis sur les plateformes.
Est-ce que ça a été facile de rassembler tout le monde, de mettre tout le monde autour de la table, d'ouvrir le dialogue? Combien de temps ça prend de mettre tout ça en place?
Ça a bien pris un an quand même dans le Verdon, parce que le temps que nous, on récolte l'information à la fois de tous les sites qui étaient pratiqués d'escalade, donc dans le Verdon, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 3000 voies, donc il y a du boulot. Qu'on mette à jour aussi les aires d'aigle, par exemple, parce que tous les ans, les aigles ne nichent pas forcément au même endroit. Donc à chaque année, il faut réactualiser aussi quelles aires sont utilisées ou pas. Et après, prendre du temps aussi donc de faire plusieurs réunions de concertation. Donc ça a pris quasiment un an. Mais une fois que c'est mis en place, après tous les ans, juste on réactualise les aires, on refait une réunion pour expliquer cette année, l'aigle niche dans ce vallon, donc on va actualiser Biodisport, donc merci de faire passer l'information. Voilà, donc une fois que c'est mis en place et que ça roule, c'est plutôt simple. Ouais, mais ça prend un peu du temps au début.
Et pour parler de la partie diffusion, si on veut accéder à ces données, vous avez parlé des différents sites partenaires, Camp to Camp, etc. Biodisport, c'est une plateforme en elle-même. Est-ce qu'on se rend sur le site internet et comment ça marche? Il faut créer un compte?
Alors, si vous allez sur la page d'accueil de Biodisport, vous avez toutes les zones sensibles qui s'affichent. Donc, en tapant Biodisport sur internet, vous tombez dessus. Ça, c'est vraiment la consultation qui peut être très générale. Et après, c'est vraiment au travers des plateformes. L'objectif, c'était vraiment pour que ça parte dans les plateformes, qu'il y ait vraiment cette interaction avec les plateformes.
Que ce soit les outils que les sportifs et sportives utilisent déjà, se trouvent enrichis par ces données-là.
Exactement. Donc, c'est une base de données qui s'appelle GeoTrek. Et l'avantage, c'est que maintenant, quasiment toutes les plateformes, même les sites des offices du tourisme, le site des conseils départementaux sur la randonnée, utilisent GeoTrek aussi. Donc, en fait, ça communique très facilement maintenant, les données. Donc, par exemple, sur le site du conseil départemental des Hautes-Alpes, sur leur espace de randonnée, on a les zones sensibles aussi. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les zones sensibles diffusent le plus possible. Et qu'elle soit à jour aussi, puisque c'est vrai que si on met des zones sensibles et qu'en fait il y a plus personne qui niche depuis 4 ans, c'est pas très crédible notre affaire. Donc on essaie de que les zones soient à jour et que tout soit vraiment en ligne et au bon moment.
Vous avez parlé de l'escalade à titre d'exemple. Quelles autres activités de pleine nature sont représentées?
Alors beaucoup le ski de randonnée, parce qu'en fait toutes les zones de sensibilité pour l'oiseau qui s'appelle le tétralyre ont été renseignées. Donc là, c'est vraiment, il y a beaucoup de zones. Et souvent, en fait, c'est l'avantage, c'est que c'est matérialisé après sur le terrain. Pour le tétralyre, généralement, les gestionnaires d'espaces naturels ou les stations de ski posent aussi des fanions. Donc ça fait double information. Mais ça permet en amont, quand on prépare sa sortie, d'avoir l'information en amont et de se dire, ah, je vais pas passer dans tel vallon parce que j'ai vu qu'il y avait une zone. Donc oui, le ski de randonnée est une pratique qui est vraiment visée. Et aussi la randonnée pédestre, notamment avec des aires de quiétude aussi pour les bouquetins. Parce que du coup, pareil, quand ils sont dans la période où ils ont les petits, en fait, ils sont cantonnés à des endroits et on évite de passer au milieu des troupeaux aussi pour ne pas les déranger. Donc vraiment, randonnée, escalade, ski de randonnée. Et là, on voudrait le développer sur tout ce qui est sport d'eau vive aussi.
Finalement, c'est une mise à jour de la façon de diffuser l'information. Moi, en tant que pratiquante d'escalade, par exemple, j'ai déjà vu des petits panneaux sur les sites qui indiquent, attention, période de nidification. Est-ce que ces panneaux-là, ils sont toujours d'actualité ou est-ce qu'on se repose surtout sur l'outil numérique maintenant? Est-ce que ça vient compléter ou est-ce que ça vient remplacer?
Alors, on utilise les deux, parce que notamment dans le Verdon, chaque année, on met à jour la liste des voies sensibles qu'on diffuse quand on a vérifié que tous les nids de vautours étaient occupés. Et après, on va poser des affichettes partout. On utilise à la fois le numérique et à la fois le terrain. Notamment, on l'a fait aussi près de Gap pour le parapente. puisqu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays, qui n'utilisent pas forcément les plateformes, parce que pour l'instant, on s'est concentré sur les plateformes européennes et françaises. Et on a beaucoup de visiteurs d'autres pays, et quand ils n'ont pas l'info en amont aussi, quand ils arrivent sur le site de décollage ou au pied de la voie, ils peuvent avoir l'information. Donc on utilise à la fois le numérique et à la fois le terrain.
Ce qui peut peut-être être sensible, j'imagine, c'est de trouver le bon équilibre entre mise à disposition de l'information et un côté un petit peu donneur de leçons. Est-ce que vous vous êtes retrouvé face à cette difficulté, peut-être de frustration de ne pas pouvoir pratiquer, ou un côté un peu décourageant, quoi, du point de vue des sportifs ou sportives?
Alors, c'est vrai qu'en région PACA, vraiment à part sur le site un petit peu des Calanques où ça a été compliqué, notamment avec l'installation du parc national des Calanques, en fait, c'est vrai que au tout début, quand on se parle pas et qu'on se connaît pas, ça peut être un petit peu compliqué. Une fois qu'on a compris les enjeux, que les sportifs aussi ont compris que c'est pas parce qu'on allait sanctuariser un endroit qu'il allait avoir 10 000 couples de faucons qui allaient s'installer, enfin voilà, qu'ils ont chacun leur territoire, que voilà, donc c'est des choses aussi, plus on discute avec les sportifs et plus après ils comprennent. Et inversement, nous aussi, quand on comprend que, ben, en effet, ce site-là, il est hyper intéressant parce qu'il est à l'ombre et que du coup, ça nous permet de pratiquer l'été, etc. Voilà, donc plus on discute, mieux c'est. Donc nous, en PACA, en tout cas dans le Verdon, c'est pas spécialement problématique, puisque sur les plus de 3000 voix qu'on a, on a, entre guillemets, des conseils 80, donc c'est pas énorme. Et après, de façon générale aussi, on a de plus en plus de pratiquants, au contraire, qui nous font remonter des nids. Donc, c'est plutôt positif. On se dit qu'en effet, ils deviennent sensibles en voyant, bah, par exemple, à Courbon, on nous a fait remonter un nid de faucon cresserelle. C'est un grimpeur qui nous a donné l'information. Donc, on se dit que ça commence à fonctionner. Si à l'inverse, ils nous informent, c'est intéressant. Et aussi, on fait beaucoup de formations pour les encadrants, que ce soit l'UCPA ou les pros indépendants, pour qu'après eux aussi ils puissent à la fois reconnaître les espèces, nous informer, et c'est vrai que voilà, on essaie quand même de concilier de façon générale, et ça marche plutôt bien, à part quelques exceptions qui après se règlent une fois qu'on a commencé à vraiment discuter.
Oui, puis il peut y avoir le cas inverse de pratiquants-pratiquantes qui seraient à la recherche de ces informations. Auquel cas, on peut les trouver justement grâce à cette plateforme. Et c'est une plateforme qui a reçu un trophée. Alors, qu'est-ce que c'est le trophée Horizon 2022 pour un tourisme durable? Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots?
Alors, c'est un trophée qui récompense le tourisme durable et notamment tout ce qui est slow tourisme, etc. Le tourisme un petit peu différent où on prend plus le temps de pas forcément consommer des espaces, mais plutôt voilà, de découvrir les territoires, etc. Donc c'est vrai que la LBO France a été lauréate de ce trophée, et ça a permis voilà, de créer une vidéo qu'on a mis en ligne qui présente Biodisport. Donc on est très fiers de ça.
On a parlé de Biodisport, donc la plateforme. On va aussi parler, puisque là, c'est encore plus récent. Biodisport, on l'a dit, ça a démarré en 2016 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce trophée, il date de 2022. Pour être dans l'année 2026, vous venez aussi nous parler aujourd'hui d'une campagne, régionale intitulée « Le sport, c'est dans ma nature », avec le soutien financier de la Fondation Prince Albert de Monaco, de la région Sud et de SNCF Réseau. En quoi consiste-t-elle cette campagne? Quel est son objectif et à qui s'adresse-t-elle?
Alors, c'est vrai qu'on s'est dit que pour communiquer auprès des sportifs et des pratiquants, c'était quand même plus intéressant que ce soit les sportifs eux-mêmes qui donnent le bon message plutôt que les associations de protection de la nature. Donc, on a cherché des sportifs qui avaient un haut niveau aussi dans leur domaine et qui étaient de la région PACA, pour porter le message et pour porter les bonnes pratiques. Donc, et on voulait un petit peu des sportifs qui représentent aussi différentes disciplines. Donc, on a trois campagnes qu'on a éditées en 2026. Une qui est vraiment sur le côté mer. Une vraiment plutôt tout ce qui est collines, milieu de type Verdon, etc. Et une vraiment sur les sports de montagne pour avoir un petit peu, on va dire, tous les milieux qui sont représentés.
Donc trois vidéos qui sont accessibles au grand public, hein, tout simplement sur YouTube, qu'on peut aller consulter.
Voilà, donc on a travaillé, c'est vrai, en amont avec les sportifs pour savoir un petit peu aussi quelle était leur activité, comment ils pratiquaient. Et après, c'était une journée de tournage avec chacun, où à la fois on pouvait tourner dans des milieux naturels qui correspondent à la région PACA, et puis les observer à travers leur activité. Donc une bonne journée de tournage et une bonne préparation en amont, et la campagne de communication par la suite.
Et à chaque fois, un sport différent qui est représenté, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il nous manque les airs. Prochaine campagne sera sûrement sur avec un parapentiste ou une personne qui pratique le vol libre pour compléter notre série, parce que voilà, et peut-être aussi sportif d'eau vive. Voilà, donc pour avoir vraiment un panel de toutes les activités que on peut pratiquer.
Alors, pour donner une idée à nos auditeurs, auditrices, eh bien, on peut écouter, alors vous n'aurez pas l'image, évidemment, on recommande d'aller voir l'image en ligne puisque il y a de beaux panoramas à admirer, mais déjà avec le son, beaucoup d'informations utiles. Le deuxième épisode de cette campagne consacrée au trail et à la randonnée dans le Verdon a été tourné donc en votre compagnie, Elsa Hue-Allègre, et en compagnie de Hugo Bettelu, trailer et réalisateur. Donc un petit échange de un peu moins de 5 minutes, je vous propose de l'écouter tout de suite.
Je m'appelle Hugo et je suis passionné de trail.
Je m'appelle Elsa, je suis responsable territoriale à la LPO PACA, donc c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors ici, nous nous trouvons sur le plateau de Venascle, au-dessus de la commune de Moustier-Sainte-Marie, dans le parc naturel régional du Verdon. Tu sais que Hugo, tu viens souvent dans le Verdon pour la nature ou pour courir ?
C'est un territoire que j'aime bien parce que bah, en fait, il y a des espaces qui sont très différents les uns des autres. Et du coup, bah, quand on fait du trail, ce qui est sympa justement, c'est d'observer et profiter de sa diversité. C'est aussi chouette, je trouve, de pouvoir se dire qu'on fait du sport et en l'occurrence du trail, et qu'en même temps, on a voilà justement cette sensibilité, cette volonté d'observer ce qui se passe autour de nous. Et en fait, ce que je remarque, c'est que c'est pas incompatible, et c'est d'autant plus plaisant justement de s'arrêter pour pouvoir observer ce qui se passe un peu autour de nous, plutôt que d'être tête baissée sur les sentiers, quoi.
Et auparavant, tu faisais beaucoup de compétitions de trail. Est-ce que ta pratique a évolué par rapport à avant ?
En fait, au fil des années, j'ai eu des réflexions sur ma pratique, avec justement cette question autour de notre rapport au territoire, de se dire, bah, en fait, quand on va parcourir un massif dans le cadre d'une course, on n'est pas là pour découvrir ce qui se passe sur le territoire. Et moi, je sais que c'était une frustration que j'avais de sortir d'une course et de me dire bah, qu'est-ce que j'ai découvert de ce massif que j'ai traversé pendant des heures et des heures. Bah, pas grand-chose. Et donc, du coup, j'ai essayé de réorienter un peu ma pratique. J'aime l'itinérance. On n'est pas axé sur la performance, sur le chrono, les statistiques, le classement, etc. Et du coup, ça nous offre du coup la possibilité de profiter de vraiment de là où on est et de pas être à regarder notre montre tout le temps et à se dire il faut que j'avance. On peut se prendre du temps. Ça m'est arrivé quand on a fait le tour des gorges du Verdon. Ça nous est arrivé de prendre une grosse demi-heure pour observer les vautours, quoi, par exemple. Et là, c'était un spectacle magique et on n'a pas envie que ça s'arrête, on est prêt justement à faire une pause pour profiter de ça, quoi. C'est vrai que les vautours, c'est un peu la star du Verdon. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les autres types d'espèces qui existent et qui vivent ici ?
Alors, dans un paysage comme ici, où en fait c'est un paysage de landes avec des buissons isolés, des arbres un peu isolés, on a un cortège d'oiseaux qui est assez incroyable. Les alouettes, les petites fauvettes passerinettes, les fauvettes pitchoux. Et puis aussi, on peut avoir pas mal de reptiles, notamment tout ce qui est lézard vert, potentiellement un peu plus bas le lézard ocellé. Et on peut avoir aussi, vu qu'on a des petites falaises un petit peu isolées, des oiseaux de falaise type monticole bleu, ticodrome échelette pendant l'hiver, etc.
Donc ça veut bien dire que la diversité, on va dire géographique et topologique du Verdon, se retrouve aussi dans la diversité des espèces qu'on y trouve, quoi. Mes plus beaux souvenirs en trail, c'est en lien direct avec la nature et en fait ce qu'on est capable d'observer quand on est sur les sentiers. Je pense à des rencontres avec des animaux, en l'occurrence, que j'ai pu faire, qui sont des moments en fait inoubliables. Quand je descends un sentier et que je tombe nez à nez avec un cerf et qu'il reste là devant moi et que je l'observe, je me dis waouh. Et là, on ne pense plus à rien d'autre que juste le moment qu'on est en train de vivre. J'avais une autre question pour toi, Elsa. Je me demandais, est-ce que tu as des conseils à donner sur ce à quoi il faut faire attention pour pas déranger certaines espèces à certains moments ?
Bah oui, alors tout simplement, la première chose, c'est quand on fait du trail ou même du VTT, etc., bah, c'est plutôt de rester sur les sentiers qui sont balisés, parce que justement, ils ont été réfléchis pour impacter moins la faune. Deuxième point hyper important, c'est au printemps, notamment lorsqu'on a des chiens, les tenir en laisse parce qu'en fait les chiens peuvent divaguer et les oiseaux sont en pleine reproduction. Et notamment les oiseaux qui nichent au sol, si jamais il y a un chien qui arrive, l'oiseau peut fuir où le chien peut venir renifler et croquer éventuellement les poussins. Et puis aussi éviter tout ce qui est enceinte musicale, voilà, tout ce qui peut déranger fortement la faune locale et notamment les trails de nuit, parce qu'en fait c'est là où la faune sort. On essaie d'être le plus discret possible pour se fondre un peu dans la nature.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Voilà, c'était un aperçu de cette campagne « Le sport, c'est dans ma nature » avec donc plusieurs vidéos, plusieurs sites emblématiques de la région PACA représentés et plusieurs disciplines. Nous venons d'écouter le deuxième épisode de cette campagne. Si vous voulez les retrouver en intégralité, les trois pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres ensuite à suivre, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube de la LPO. Nous sommes toujours en compagnie de Elsa Huet-Allègre, responsable territorial des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes pour la LPO. La région sud a participé notamment au financement. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé dessus. Et pas uniquement la région sud. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ?
Alors, c'est vrai qu'on a un gros soutien de la région sud pour la thématique sport et activités de pleine nature et conciliation avec la biodiversité, puisque c'est vrai qu'on est dans une région qui est assez juste incroyable en termes de biodiversité par rapport à d'autres régions de France, sans être chauvine. Et donc, c'est vrai qu'il y a des énormes enjeux. Il y a aussi des énormes enjeux de fréquentation. Donc, c'est vrai que la région a vraiment une attention là-dessus. On est aussi financé par les conseils départementaux, notamment des Hautes-Alpes, puisqu'ils ont aussi la compétence sport de pleine nature. Voilà, donc c'est vraiment à la fois des financements publics sur la thématique et on essaie de trouver des cofinancements privés aussi pour nous aider à financer tout ça.
Une campagne lancée au mois de juin 2026, est-ce qu'elle a vocation à se poursuivre ou est-ce que là, avec les trois vidéos, déjà on a de quoi faire ?
Alors c'est vrai qu'on a tourné une vidéo donc dans les Hautes-Alpes avec Laetitia Roux, qui est une sportive de ski alpinisme, qui est une championne du monde. Donc je pense que cette campagne, on la rediffusera beaucoup en période hivernale. Et là, c'est vrai qu'on a axé notre communication sur les 50 ans de la protection de la nature, puisque cette année, ça fait les 50 ans que la loi de 1976 a été votée. Donc là, on va axer beaucoup notre communication sur la thématique vautour, grand rapace, et bien sûr, du coup, la thématique escalade et vol libre et parapente sera abordée tout ce mois d'août et septembre, notamment lors des journées internationales des vautours qui sont fin août.
Pour aborder un peu les activités dans les airs.
Exactement.
C'était le milieu qui restait à être représenté. Dans tous les cas, l'idée, c'est de donner des clés concrètes pour concilier donc activité sportive et préservation de la biodiversité et finalement d'impliquer les participants dans cette protection, de les informer, de les impliquer s'ils le souhaitent, évidemment. Est-ce qu'il y a quelques gestes simples qui permettent de réduire le dérangement des espèces que vous voudriez citer, que les auditeurs, auditrices pourraient retenir dans n'importe quelle discipline ?
Alors déjà, le plus simple, c'est de respecter la réglementation. Quand on voit un panneau qui interdit ou qui demande de rester sur le chemin ou de tenir son chien en laisse, respecter voilà, ce qui est écrit sur les panneaux, tout simplement. Après, bien sûr, c'est rester sur les chemins. Lorsqu'on fait du trail, du VTT, etc., c'est vrai que le hors-sentier, surtout en période de reproduction, peut être problématique. Lorsqu'on coupe et qu'on passe à travers une prairie où il peut avoir des alouettes qui nichent ou des bruants, etc. Et donc, là, voilà. Donc, c'est vraiment les deux consignes. C'est rester sur les chemins, rester sur les sites qui sont déjà équipés et respecter la réglementation. Et notamment tenir les chiens en laisse en période de reproduction. Voilà, les choses les plus simples, ce sont celles-là.
Pour revenir à la plateforme Biodiv Sport et les données qui sont cartographiées ou qui sont indiquées sur les sites de pratique d'activité en plein air, est-ce qu'il y a une vérification que les conseils et les recommandations indiquées sont bien respectées ? Est-ce qu'il y a du sanctionnement derrière ? Comment ça se passe pour suivre ce qui se passe après la phase d'information ?
Alors, Biodisport, nous, on n'a pas du tout à vocation justement à être réglementaire. C'est vraiment de la mise à disposition d'informations. On ne va jamais vérifier par la suite si, lorsqu'on a déconseillé une voie, il y a du monde ou pas. Donc voilà. En plus, nous, la LPO, on n'a pas du tout cette vocation-là. Donc, on n'a aucun pouvoir de police. Par contre, ça peut être le cas sur des sites qui sont réglementés, protégés, comme un parc national ou un arrêté de protection biotope, où là, il y a une réglementation. Mais là, c'est la réglementation de l'espace naturel qui s'applique et pas du tout ce qu'on a renseigné dans Biodisport. Voilà, donc nous, à titre Biodisport, non, il n'y a pas du tout de contrôle derrière. C'est vraiment, on compte sur les pratiquants, sur la bonne volonté pour s'informer et puis respecter ce qui est proposé, mais on n'ira pas contrôler derrière déjà parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas l'objectif.
Est-ce que vous diriez, et peut-être qu'on va bientôt terminer cette émission sur cette idée, est-ce que vous diriez que parmi vos missions, il y a un travail sur la perception de la nature qui peut au départ être perçu comme un super terrain de jeu, mais dont il faut se souvenir qu'il y a aussi un milieu vivant en fait derrière tout ça. Est-ce que ça fait partie de vos missions de travailler sur cette perception?
Oui, c'est vrai que là on s'en rend compte avec notamment les pratiques type le trail où vraiment c'est un public qui est très urbain, des gens qui viennent de grandes villes et en fait que du coup ils viennent vraiment faire de la performance, monter sur des montagnes le plus vite possible et redescendre le plus vite possible. Donc c'est vrai que donc il faut un petit peu avoir en effet en tête le fait que, comme le dit très bien Laetitia dans sa vidéo, la nature est pas un terrain de jeu, faut arrêter de dire ça. Après, la difficulté, c'est en effet capter ces personnes qui sont venues entre guillemets que faire du sport et se rendre compte en effet qu'on est dans un milieu naturel. Donc c'est aussi ce que dit aussi très bien Hugo dans sa vidéo, c'est apprendre en fait, même lorsqu'on pratique, lorsqu'on est en randonnée, en trail, lorsqu'on est même sur une falaise, de se poser et en fait d'observer autour de soi et de se rendre compte que en effet on n'est pas tout seul, il y a même des oiseaux, des insectes, des fois même sans aller très loin, juste en levant les yeux 2 mètres au-dessus, on voit un écureuil. Donc oui, c'est vraiment essayer de réapprendre à observer la nature, à pas regarder la montre, à pas regarder le téléphone, mais à regarder autour de soi. Donc bien sûr, on fait beaucoup de sorties, etc. On essaie d'être présent sur les manifestations sportives pour c'est assez compliqué puisque les gens viennent là pour faire leur perf. Donc c'est vraiment à travers ces messages aussi des sportifs qui peuvent nous aider aussi à apprendre aux gens qui sont dans la nature que ce n'est pas seulement un terrain pour faire du sport, c'est aussi un terrain où la nature s'exprime.
Vous avez parlé du slow tourisme tout à l'heure. Est-ce que ça rejoint justement cette idée-là de prendre plus son temps? Qu'est-ce que c'est exactement le slow tourisme?
Et c'est éviter de partir 2 jours à l'autre bout du monde pour prendre 3 photos. C'est un peu l'opposé. C'est sur les moyens de transport, comment on se rend sur un site, combien de temps on va y rester, est-ce qu'on va essayer de rencontrer un petit peu des gens locaux pour discuter de ce qu'ils font. Là, on est en train de développer un programme sur du tourisme scientifique aussi, avec par exemple de l'observation ornithologique, que ce soit quand on arrive dans un hébergement, que l'hébergement en effet soit respectueux de la nature, que l'hébergeur soit capable aussi d'expliquer, regardez ici j'ai ma nichoire parce que j'ai vu que j'avais des mésanges qui étaient là, réapprendre un petit peu à voyager autrement, peut-être moins loin ou alors plus longtemps donc essayer de réapprendre un petit peu à prendre du temps lorsqu'on est en vacances et pas seulement de mettre des photos sur les réseaux mais aussi de rencontrer des gens en local donc c'est vrai que nous on prône vraiment ce tourisme. On développe pas mal de séjours ornithologiques, d'écotourisme aussi. Et là, on va développer un séjour sur les papillons, par exemple, pour apprendre à identifier les papillons. Et aussi, à trouver des hébergements qui sont respectueux de la nature. Donc, c'est en fait plus, quand on arrive dans un espace, de redécouvrir cet espace au travers des habitants, des territoires et bien sûr de la faune et de la flore sauvage.
Ce qui peut faire peut-être aussi des ponts avec les générations, parce que cette façon de pratiquer le tourisme un peu de masse, ça historiquement, c'est daté aussi. Est-ce que on retrouve comme ça des liens entre des générations qui allaient peut-être un peu plus lentement et à nouveau les nouvelles générations qui prennent conscience qu'il y a des impacts, en fait.
Oui, c'est vrai qu'on a eu une accélération phénoménale des voyages, avec le développement de tout ce qui était aussi transport à bas prix, etc. Donc, c'est vrai que, il y a vraiment ce boom, entre guillemets, qu'on a vu aussi sur les territoires, des gens qui venaient en train ou en avion juste pour passer une journée et faire du canyoning et repartir. J'en ai connu. Et je pense que maintenant, quand même, on a beaucoup de gens qui voyagent différemment à travers du vélo, etc. On a aussi notre campagne qui est un peu basée là-dessus, sur comment bivouac aussi dans la nature, lorsque on vient aussi pratiquer, ce qui est très bien. Les gens aussi reprennent un tourisme de bivouac, mais par contre, il faut aussi se comporter de façon respectueuse aussi lorsqu'on bivouac. Donc je pense qu'il y a un nouveau mouvement de voyage un peu différent, pas moins loin. Donc on espère que ça va aussi créer des personnes qui vont nous faire remonter des informations sur des observations de la nature.
Eh bien, merci beaucoup Elsa Huet-Allègre. Je rappelle donc que vous êtes responsable territoriale des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Merci pour ce moment de sensibilisation. Pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient retrouver ces informations, se renseigner davantage, qu'est-ce que vous recommandez comme réseau à consulter, plutôt le site internet?
Alors, on a un agenda en ligne sur le site de la LPO PACA. Vous tapez LPO PACA agenda. Et en fait, il y a toutes les activités que l'on propose, que ce soit bénévole ou salarié, des conférences, des sorties, des expositions. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur nos territoires. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre lors d'une sortie, d'un moment à passer avec la LPO. Ce sera avec plaisir.
Et en ce qui concerne la campagne « Le sport, c'est dans ma nature », si vous voulez aller voir les vidéos, il suffit de vous rendre sur YouTube. Donc, c'est la chaîne YouTube de la LPO, hein, c'est ça?
Ouais, LPO PACA.
LPO PACA. Voilà, comme ça, vous pouvez cette fois-ci avoir les images et pas uniquement le son. Merci beaucoup également aux auditeurs et aux auditrices d'avoir suivi cette émission. Il nous reste à vous souhaiter une agréable journée à l'écoute de Fréquence Mistral. Merci et bonne journée Elsa Huet-Allègre.
Merci beaucoup.
Singing his song, all the little birds on a jaybird street love to hear the robin go tweet tweet tweet. Rockin' robin, tweet tweet, rock rock, rockin' robin, tweet tweet tweet. Go rockin' robin, 'cause you're really gonna rock tonight. Tweet, I say rock, tweet tweet. Every little swallow, every chickadee, every little bird in the tall oak tree, the wise old owl, the big black crow, flap their wings singing go bird go. Rockin' robin, rock, rock, rockin' robin, tweet, tweet, tweet. Go rockin' robin, 'cause you're really gonna rock tonight. Tweet, go! Tweet, 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 tweet. A pretty little raven at the birdman's stand taught them how to do the boppity. They started going sturdy and bless my soul. He out popped the buzzard and the Oreo. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a-bopping and a-singing his song. All the little birds on a jaybird street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' robin, tweet, tweet, rock, rock, rockin' robin, tweet, tweet. Well, go rockin' robin, 'cause you're really gonna rock tonight. Tweet, see, rock, tweet. Well, the pretty little raven at the bird taught them how to do the mop and it was when they started going steady and bless my soul. He out popped the buzzing and the Oreo. He rocks in the treetop all the day long, hopping and a-bopping and a-singing his song. All the little bears on the jaybird street love to hear the robin go tweet, tweet, tweet. Rockin' robin, tweet, tweet, rock, rock, rockin' robin, tweet, tweet. We'll go rockin' robin, 'cause you're really gonna rock tonight. Tweet, I said rock.